Jean-Charles Chouec, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur émérite du CNRS et vous êtes un expert sur la Pologne d'après-guerre et notamment sur les relations judéo-polonaises. Et finalement, un des grands objets de vos études est de comprendre comment la Pologne a géré la disparition de ces 3 millions de Polonais qui étaient juifs et qui ont été exterminés pendant la guerre. Et que peut-on dire à l'heure actuelle sur la situation en Pologne? Nous avons beaucoup lu à ce sujet. J'ai personnellement participé à un colloque que vous avez organisé en février sur la nouvelle école historique polonaise. Et nous savons qu'il y a actuellement encore des difficultés importantes en Pologne pour remémorer cette période.
Oui, il faut un petit peu se remettre en face de la situation qui a été celle de la Pologne depuis 45 à nos jours. Je ne veux pas être trop long ni abuser de la parole, mais pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut un petit peu revenir en arrière. La Pologne a été le pays le plus martyrisé de la guerre, ou l'un des pays les plus martyrisés de la guerre, avec sa capitale Varsovie qui a été rasée par les Allemands, avec une double invasion en septembre 1939, le 1er septembre par l'Allemagne nazie, le 17 septembre par l'Union soviétique, qui ont dépecé la Pologne en fonction d'un accord qu'elles ont eu ensemble. Ceci a pesé beaucoup sur un traumatisme polonais qui est aussi générateur d'une très grande résistance. En Pologne, il y a eu une résistance très importante. C'est l'un des pays, sinon encore une fois le pays, je crois, avec la Yougoslavie, où la résistance intérieure a été la plus forte, avec une armée clandestine forte de 350-400 000 membres à son pic. Donc c'est un pays qui a ce passé-là, et il faut le comprendre, qui est tombé sous la coupe soviétique à partir de 1944-1945. Le martyr polonais, c'est aussi le fait qu'il y a 6 millions de citoyens polonais, je dis bien citoyens, qui sont morts pendant la guerre, dont 3 millions de juifs. Les 3 millions, ce qui veut dire que 3 millions de citoyens, peut-être un peu moins, les évaluations tournent autour de 2 millions environ aujourd'hui, de Polonais non-juifs qui sont morts du fait de la guerre, c'est un chiffre important. C'est un chiffre très important, et chaque famille polonaise a été imprégnée, imbibée de ce drame polonais. Et quand la martyrologie polonaise s'est mise en place après la guerre pour commémorer cette situation, les Juifs sont passés à la trappe en quelque sorte. C'était une seconde catégorie de victimes du point de vue de l'opinion polonaise et aussi du point de vue des autorités communistes polonaises en charge des politiques de commémoration qui mettaient d'abord en avant le martyr polonais. Si bien que, pendant 45 ans, le martyr juif, eh bien, il était le fait des organisations juives et non pas le fait des citoyens polonais. C'est pour ça que quand il y a eu l'affaire du Carmel d'Auschwitz, vous vous souvenez, ces carmélites qui ont investi un des bâtiments dits du théâtre sur le site du camp d'Auschwitz, au musée d'Auschwitz, l'opinion publique, à la fois juive et l'opinion internationale, a demandé à ce que les carmélites quittent ce site-là, l'incompréhension en Pologne a été totale. Et il a fallu beaucoup de temps pour que l'opinion publique polonaise reconnaisse qu'il y a eu un génocide des juifs, pas seulement des juifs polonais, mais des juifs du monde entier, et que cela ressortit à quelque chose de différent de tout ce qu'on a connu en matière de génocide et de massacre. Ça a pris beaucoup de temps, il y a eu plusieurs étapes, le rideau s'est déchiré, on peut dire, au moment où un universitaire américain d'origine polonaise, qui s'appelle Jan Gross, a montrer dans un ouvrage que dans une bourgade de l'est de la Pologne, Jedwabne, le 10 juillet 1941, la totalité de la population juive de cette bourgade, on ne sait pas exactement combien, plusieurs centaines, voire 1600, ont été tués par leurs voisins polonais. quand il a mis cela au jour et que cela s'est su, en l'an 2000, cela a provoqué un débat national en Pologne, qui l'opinion publique a été effarée de voir qu'une nation qui se croyait et qui se pensait comme innocente ait pu commettre un tel crime. Et nation innocente, oui, car dans le récit qu'on racontait à la société polonaise, c'était bien sûr, il y a eu aussi des juifs, mais que ces juifs ont été à la fois aidés massivement par la population polonaise. La preuve, c'est qu'à Yad Vashem, il y a près de 7000 Polonais qui ont leur arbre à Yad Vashem et que c'est le groupe le plus important sur le plan national. Et il y a eu aussi des maîtres chanteurs qui attendaient les juifs à la sortie des ghettos, du ghetto de Varsovie et des autres ghettos. Et c'était une société marginale, marginalisée, de marginaux plus exactement, comme dans toutes les sociétés, il y avait des délinquants. C'est cette image binaire, d'un côté des juifs aidant, la preuve, regardez Yad Vashem, de l'autre des voyous et des criminels, qui a été transmise à la Pologne, et aucune idée de zone intermédiaire, de zone grise, comme disait Primo Levi. C'est cela qui a été le problème de l'examen par les Polonais de leur passé juif pendant l'occupation.
Ce qui a été difficile, extrêmement difficile, vous avez vous-même contribué à un livre qui est sorti en Pologne l'année dernière, avec un certain nombre d'historiens polonais, et qui traite de façon très détaillée, dans, je crois, 9 régions polonaises, le destin des Polonais et le destin des Juifs qui essayaient de se cacher, et les comportements généraux de la population polonaise. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu?
Bien sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce livre est le fait d'un groupe d'historiens que nous appelons, nous, les chercheurs français et d'autres, une nouvelle école polonaise d'histoire de la Shoah. Pourquoi? Parce qu'à la suite du livre de Jan Gross, dont je viens de parler, est né justement un groupe de chercheurs regroupé autour d'une figure assez lumineuse qui s'appelle Barbara Engelking, un groupe qui s'est lancé dans les recherches pour lesquelles Jan Gross avait donné des pistes, des recherches sur les comportements de la population polonaise. Et aujourd'hui, il y a déjà des milliers de pages qui ont été écrites là-dessus, et certains livres de ces auteurs, de Barbara Engelking notamment, de Jan Grabowski, un autre collègue, ont été traduits en français, si bien qu'ils sont disponibles, et on sait ce que disent ces chercheurs polonais. Alors, pour revenir à votre question, oui, la dernière production de ce groupe, c'est une recherche sur les régions en Pologne pendant l'occupation, sur 9 régions qui se ciblent sur ce que les collègues polonais appellent la troisième phase de la Shoah, c'est-à-dire ce moment où il y a eu, pour un certain nombre de juifs, la possibilité d'échapper à la déportation. La troisième phase de la Shoah, ce sont des juifs qui sont parvenus à quitter les trains de la mort et à tenter de se réfugier chez des paysans polonais, dans les forêts, chez des partisans, par différents moyens de s'échapper. On évalue ce groupe à environ 250 000 personnes, qui sont peu si l'on compare avec les centaines de milliers de juifs polonais déportés. Et c'est sur ce groupe-là, principalement, que porte cette recherche. Plus loin, c'est la nuit encore. C'est le titre de l'ouvrage, qui a connu un très grand succès en Pologne quand il est sorti l'an dernier, et qui a fait l'objet d'attaques inouïes de la part des autorités, qui l'ont prise en quelque sorte comme exemple de recherche qu'il fallait dénoncer, et ils passent leur temps à dénoncer les recherches et les conclusions de ce livre, qui sont des conclusions importantes, parce qu'elles montrent pourquoi, dans quelles conditions, par quel mécanisme, si peu de Juifs ont pu survivre dans la Pologne occupée. Je parle bien de la Pologne occupée par les Allemands de 39 à 45, et là, plus précisément, ce livre porte sur les années 43, 42, 43, 44, la deuxième moitié de l'année 42, jusqu'à la fin de l'année 44. Et je ne parle pas des survivants juifs en Union soviétique, lesquels sont beaucoup plus nombreux, ils sont 250 000. Là, on parle de tout à fait autre chose. Voilà, c'est
donc,
ça.
Donc il s'agit en gros de 200 000 personnes qui ont essayé d'échapper aux Allemands en se cachant. Et finalement, on parle, je crois, d'environ 40 000 survivants dans ce groupe.
Oui.
Et donc votre livre cherche à voir ce qui est arrivé de la plus grande partie de ces hommes et de ces femmes, de ces juifs, qui ont essayé de se cacher à l'intérieur des villes ou des campagnes polonaises. Qu'est-ce que vous en avez tiré comme conclusion ?
Ben, nous en avons tiré la conclusion que pour les juifs qui tentaient de se cacher et de survivre dans les campagnes polonaises, les conditions de survie étaient extrêmement difficiles, puisque si peu de juifs ont survécu. Ce n'est pas uniquement parce que les paysans polonais leur ont prodigué un accueil difficile, c'est aussi parce que les conditions de l'occupation allemande étaient très très difficiles, parce qu'il y avait l'ordre allemand. Nous étions pas dans l'ordre polonais, mais dans l'ordre allemand, mais que cet ordre allemand avait des relais dans les campagnes, et que ces relais se tenaient en quelque sorte les uns avec les autres, des relais tels que il y avait des corps, il y avait les maires de village, les chefs de village qui étaient obligés de rendre des comptes, et qui, de ce fait, n'était pas complètement indépendant par rapport aux décisions qu'il prenait. Il y avait des gardes de village, il y avait le corps des pompiers. Ce sont des corps et des individus qui participent à la traque des juifs. Et ceci explique pourquoi si peu de juifs ont survécu.
Oui. Alors, il faut aussi tout de même tenir compte... Il faut tenir compte du fait que, effectivement, il était pour un Polonais extraordinairement dangereux de cacher des Juifs. Et il faut ici rendre un grand hommage, un hommage particulier à ces Polonais, dont certains ont été tués d'ailleurs par les Allemands, ce qui ne s'est, par exemple, à ma connaissance, pratiquement jamais passé en France, parce qu'ils essayaient de sauver des Juifs, parfois même tués avec leur famille. Je pense ici, bien entendu, Irena Sandler, je pense aux gens du groupe Zegota et ainsi de suite. Comme vous avez dit, c'est le pays où il y a eu le plus de Juifs, le plus de Polonais, plus de nationaux qui ont été déclarés juste des nations. Cela étant, il y avait aussi cet antisémitisme très, très, très marqué pour la Pologne, et globalement, ce danger qu'avait un Juif d'être reconnu comme Juif auprès de, disons, des Polonais tout venant. Personnellement, moi qui suis né en Pologne en 1945, ma mère a été sauvée par des Polonais, mon père a été dénoncé par des Polonais, et j'ai toujours gardé cette image double, ce qui me permet de refuser d'essentialiser les Polonais. Mais il n'en reste pas moins que cet antisémitisme était extrêmement virulent et qu'il a pesé énormément. Aujourd'hui encore, on a l'impression que le gouvernement polonais actuel est en train de réécrire l'histoire. Est-ce que vous pouvez essayer de réécrire l'histoire ? Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots ?
Oui, il se passe un phénomène inouï. À la suite du débat autour de Jedwabne, la Pologne a été le troisième pays à reconnaître qu'il y a eu des crimes commis contre les Juifs. Et le 10 juillet 2001, le président polonais de l'époque, 60 ans après les faits, a été demandé pardon aux Juifs pour le crime de Jedwabne. C'était un acte symbolique. Et l'Église de Pologne a fait un geste de son côté aussi par une messe à Varsovie. Cette reconnaissance... Qui a accompagné une sorte de grâce pour le passé juif, pour le fait juif en Pologne, qui se traduit par des manifestations artistiques, culturelles importantes, un festival à Cracovie. Cet état de grâce, je crois qu'on peut dire qu'il a pris fin avec l'arrivée de nouvelles autorités qui veulent insuffler un récit qui nie ce qui s'est passé, qui nie non seulement ce qui s'est passé, mais aussi qui tente d'insuffler un esprit patriotique dans des manuels scolaires, dans des productions artistiques. Voilà quelque chose qui ressemble à une forme de révision de l'histoire, de gens qui n'acceptent pas ce que les autres, leurs prédécesseurs, avaient accepté avec courage.
Oui, et il devrait pourtant être simple d'accepter le fait que l'histoire a un certain nombre de données et ceux qui vivent aujourd'hui ne sont pas coupables éventuellement de ce qu'auraient fait leurs grands-parents.
Ouais, c'est évident.
Et pour un pays dont les crimes ont été largement plus graves, je parle ici de l'Allemagne, à partir du moment où l'Allemagne a reconnu ce qui s'était passé, des relations saines ont pu s'établir. À partir du moment où la France a reconnu ce qui s'était passé, des relations saines aussi ont pu s'établir. Ce qui se passe en Pologne, c'est qu'effectivement la Pologne a beaucoup souffert de l'occupation nazie. Mais comment se fait-il qu'on n'arrive pas à établir la vérité de façon sereine ?
Elle est récente, cette vérité. Elle n'est pas immédiate. Enfin, elle ne date pas d'aujourd'hui. Mais c'est une vérité qui a connu ces moments importants avec toutes les publications de la nouvelle école polonaise que nous avons d'histoire de la Shoah, que nous avons, nous, les chercheurs français, voulu présenter au public français en les invitant le 21 et 22 février, à l'École des hautes études et au Collège de France. Yann Gross est le quatrième Polonais à intervenir publiquement au Collège de France. Ce n'est pas rien. Nous avons voulu leur donner une diffusion à ces travaux. Le livre, les actes de ce colloque vont bientôt paraître à la rentrée. Et nous espérons que nous pourrons intervenir au colloque des historiens, aux journées des histoires de Blois, pour présenter et faire connaître les travaux de nos collègues polonais.
Merci Jean-Charles Churek, et continuez votre travail pour l'histoire et pour la mémoire.
Nous l'espérons.